de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos telles que l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Indonésie exprime l'engagement de l'ASEAN à maintenir la stabilité Indo-Pacifique. L'Indonésie exprime son engagement à aider la Palestine et encourage l'Union européenne à faire la même chose. J'ai nous présente maintenant le journal en complet. L'Indonésie et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN s'engage à continuer d'être des contributeurs majeurs à la création et au maintien de la paix et de la prospérité dans la région. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, lors de son discours de la table ronde 1 au 3e forum ministériel de l'Union européenne sur l'Indo-Pacifique à Bruxelles, en Belgique. Dans une déclaration reçue à Jakarta samedi 3 février, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que l'ASEAN avait déjà un concept, à savoir les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, et l'ASEAN a également commencé à le mettre en œuvre sous la présidence indonésienne de l'ASEAN l'année dernière. Je souligne également que l'ASEAN ouvre la porte à un partenariat avec toutes les parties, y compris l'Union européenne. Et j'ai expliqué les priorités de coopération que l'ASEAN souhaite selon AOIP, à savoir la connectivité, les infrastructures, la réalisation des objectifs de développement durable, le commerce et l'investissement. Elle a également souligné lors de la table ronde l'importance du respect du droit international et du multilatéralisme. La ministre Retno Marsudi a déclaré que l'ASEAN et l'Union européenne était partenaire dans le maintien du respect continu du droit international. Selon la ministre, la consistance dans la mise en œuvre du respect du droit international doit s'appliquer à toutes les questions, tant en Ukraine qu'en Palestine et à Gaza. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que les pays de la région, à la fois l'Asie du Sud-Est, où ASEAN et l'Union européenne sont à l'avant-garde du respect constant du droit international afin d'empêcher les pays puissants de tout contrôler. Selon la ministre, cela inclut la question palestinienne où pendant plus de 7 décennies, le peuple palestinien a continué à faire face à l'injustice. C'est ce qu'a déclaré la ministre Retno Marsudi lors de la séance d'ouverture de la 3e réunion du Forum ministériel de l'Union européenne sur l'Indo-Pacifique à Bruxelles, en Belgique. Dans une déclaration reçue samedi à Jakarta, elle a souligné l'engagement de l'Indonésie à continuer d'aider la lutte palestinienne et a demandé à la même chose à l'Union européenne.
Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan diam.
J'ai souligné dans ma déclaration que l'Indonésie continuera à aider le peuple palestinien dans la lutte pour obtenir ses droits, quels que soient les défis auxquels il doit faire face. Et j'appelle l'Union européenne à faire preuve de science pour mettre fin aux atrocités en Palestine. En tant que défenseur du droit international, l'Union européenne doit être cohérente sur la question palestinienne parce que la cohérence entre les valeurs et les actions montre notre véritable moralité. Le forum ministériel de l'Union européenne sur l'Indo-Pacifique a été organisé par l'Union européenne comme plateforme de dialogue pour discuter des problèmes de la région Indo-Pacifique et des efforts visant à accroître la coopération. L'Indonésie, représentée par la ministre des Affaires étrangères, Tamar Sudi, y avait participé aux deux précédentes rencontres similaires, à savoir à Paris en 2022 et à Stockholm en 2023. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, M. Arifin Tasrif, a révélé que la société pétrolière et gazière italienne Eni était intéressé par le développement de la bioénergie en Indonésie. Arifin a déclaré que l'Indonésie possède également un grand potentiel bioénergétique. C'est ce qu'a déclaré Arifin Tasrif au bâtiment du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales à Jakarta vendredi, après avoir assisté à la signature de l'accord de coopération entre le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales et Eni. La signature du protocole d'accord a été réalisé par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, Dadan Kusdiana, et le directeur des opérations des ressources naturelles de l'Ente Nationale Hydrocarburée, Eni, Guido Brusco. Il a déclaré que la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales et Eni faisait suite à la visite du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales au bureau d'Eni en Italie du 21 au 24 janvier 2024. Selon Arifin, cette collaboration fait partie des efforts accélérés visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette en Indonésie en 2060 ou avant. Avec le protocole d'accord, on espère que Eni aidera le programme de décarbonisation en Indonésie et renforcera les relations de coopération entre Eni et l'Indonésie. Le membre de la Commission électorale générale indonésienne ou KPU, M. Muhammad Afifuddin, a déclaré que des dizaines d'observateurs électoraux étrangers visiteraient les bureaux de vote ou TPS au jour de scrutin le 14 février 2024 dans le cadre du programme de visite électorale en Indonésie. Muhammad Afif du bâtiment indonésien du KPU à Jakarta a expliqué vendredi que le programme serait mis en œuvre à Jakarta du 12 au 15 février 2024. Selon Afif, des observateurs électoraux étrangers visiteraient plusieurs bureaux de vote de DKI Jakarta, Java West et Banten via ce programme. Muhammad Afif a déclaré sur les 31 KPU des pays amis qui avaient confirmé il y avait 8 pays. Puis parmi les ambassades de pays de 45 pays, 17 pays avaient confirmé. Un campus des États-Unis a confirmé sa participation au programme. En outre, 7 organisations non gouvernementales ont confirmé leur présence en tant qu'observateurs électoraux étrangers. Le programme de coopération des agences des Nations Unies pour atteindre l'objectif de développement durable en Indonésie a effectué une visite à l'ouest de Nusa Tenggara pour s'assurer que le programme en cours d'exécution a un réel impact sur les micro, petites et moyennes entreprises. Le programme a appelé « Accélérer les investissements dans les objectifs de développement durable en Indonésie, programme commun » financé par le Fonds commun pour les objectifs de développement durable effectue principalement des examens dans le secteur alimentaire, à base agricole et les start-up du secteur bleu. Le chef de la représentante des Nations Unies en Indonésie, Valérie Juliande, en tant que coordinatrice d'Assis GP, a déclaré vendredi dans un communiqué à Jakarta que le financement impliquant le PNUD, L'ONUDI, PNUE et l'UNICEF avaient eu un impact positif sur 1000 micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes, les jeunes et les start-up qui ont créé un impact majeur de changement sur la communauté locale. Selon Valérie, ce programme fournit non seulement une assistance technique pour augmenter les capacités adaptées aux besoins des entreprises afin de soutenir la croissance locale, mais offre également un accès plus large aux opportunités de financement conformément aux objectifs de développement durable. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Denpasar, Bali. Le ministère du Droit et des Droits de l'Homme de Bali a noté qu'en 2023, 5,3 millions de ressortissants étrangers sont venus sur l'île de Bali. Ces données ont été transmises par le chef par intérim du ministère du Droit et des Droits de l'Homme de Bali, M. Putu Murdiana, lorsqu'il a reçu l'équipe de surveillance du droit de l'immigration de l'organe d'expertise du secrétariat général du Parlement de la République d'Indonésie lors d'une visite de travail au bureau du ministère du Droit et des Droits de l'Homme de Bali mercredi 31 janvier. Putu Murdiana a déclaré que Bali était l'une des destinations touristiques internationales et la principale destination d'arrivée des ressortissants étrangers. Par conséquent, le contrôle de la présence des étrangers à Bali est l'un des centres d'attention du ministère du Droit et des Droits de l'Homme de Bali. À ce sujet, selon Putu Murdiana, les mesures prises par Bali d'immigration consistent à augmenter le nombre d'agents d'immigration, à accroître l'utilisation des technologies de l'information et à accroître la coopération avec diverses parties liées. Les nouvelles suivantes de Pasuruan, Java Oriental. Le ministre du Commerce a posé mercredi la première pierre de la revitalisation du marché thématique du tourisme de Cengho dans la région de Pasuruan à l'est de Java. Le ministre du Commerce, M. Zulkifli Hasan, a estimé que la construction du marché thématique touristique de Cengho développera le potentiel touristique et améliorera l'économie de l'est de Java, notamment de la région de Pasuruan. Le ministre Zulkifli Hasan a déclaré que le marché thématique du tourisme de Cengho combinerait des éléments commerciaux, touristiques et culturels. Selon lui, le marché conçu pour accueillir la culture chinoise devrait pouvoir accueillir jusqu'à 330 commerçants. Outre le marché thématique du tourisme de Cengho, selon Zulkifli Hasan, au début 2024, le ministère du Commerce posera la première pierre pour la construction du marché thématique touristique d'exploration du lac Ranau à Lampung-Ouest, Lampung. Jusqu'à la fin de 2023, le ministère du Commerce construira 4 unités de marché populaire thématique du tourisme, à savoir le marché de Bunaken dans la ville de Manado, Sulawesi du Nord, le marché Udubut dans la région de Gianyar, Bali, le marché de Semarapura dans la région de Klungkung, Bali, et le marché de Singamandawa dans la région de Bangli, Bali. La dernière nouvelle vient de Palangkaraya, Kalimantan Central. PT Angkasa Pura II de l'aéroport Cilikriwut, la ville de Palangkaraya, Kalimantan Central, a aidé 12 partenaires des micro, petites et moyennes entreprises dans le bazar du Nouvel An chinois 2024. Le directeur général exécutif quotidien de l'aéroport Cilikriwut, M. Maulid Sakti, a déclaré jeudi que cette activité se déroulerait du 1er jusqu'au 13 février. Maulid Sakti a déclaré que son parti tente de profiter de l'élan du Nouvel An chinois 2024, en plus d'être une forme de participation à l'accueil de la joie du Nouvel An chinois ainsi que d'ouvrir aux partenaires de micro, petites et moyennes entreprises la possibilité d'étendre le marketing et d'augmenter les ventes de produits. De plus, il est mis en œuvre dans la zone du terminal de l'aéroport de Chilliwkrewut, ce qui le rend stratégique pour les MPME en raison de l'activité des passagers à l'arrivée et au départ. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui, le 3 février. Le 3 février 1945, des bombardiers américains ont bombardé l'Allemagne. Le B-17, un bombardier américain, a bombardé la région de Berlin en Allemagne le 3 février 1945. L'attaque qui a également visé des zones résidentielles civiles, causant la mort de 2500 jusqu'à 3000 personnes. L'attaque a également fait perdre le logement à environ 120 000 personnes à Berlin. Le 3 février 1999, les tragédies Idijut et Arakundo sont devenues un sombre record dans l'histoire d'Aceh. La tragédie était un massacre civil le 3 février 1999 à Idijut, dans l'est de Aceh. Selon la littérature, l'incident commis par des soldats des forces armées indonésiennes a tué 7 personnes et en blessé des centaines d'autres. Le pont d'Arakundo est l'endroit où 7 corps ont été jetés dans la rivière après le massacre. Les auteurs n'ont pas encore été arrêtés ni traduits en justice, faisant passer cette affaire d'une terrible tragédie à l'impunité. Le 3 février 2007, l'attentat suicide à Bagdad, l'Irak. Un attentat suicide a frappé le marché de Sadria à Bagdad, en Irak, le 3 février 2007. L'explosion de la bombe, dont le poids estimé à près d'une tonne, a tué 135 personnes et a blessé 339. L'attentat suicide s'inscrivait dans le conflit chiite et sunnite en Irak. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie. Voice of Indonesia. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulée, selon la Banque d'Indonésie, l'inflation en janvier 2024 reste maintenue. Le gouverneur adjoint du département des communications de la Banque d'Indonésie, M. Erwin Haryono, a déclaré que l'inflation de l'indice des prix à la consommation en janvier 2024 sera maintenue à un niveau bas de 2,5 plus moins 1%. Cité sur la page de bi.go.id jeudi, il expliquait que les données d'inflation de l'Agence centrale des statistiques basées sur l'enquête sur le coût de la vie pour 2022. L'inflation de l'indice des prix à la consommation pour janvier 2024 a été enregistrée de 0,04%, de sorte que sur une base annuelle, il devient 2,57%, plus bas que l'inflation de l'indice des prix à la consommation au mois précédent était de 2,61%. Et M. Erwin Haryono a également expliqué que le développement soutenu dans l'inflation de l'indice des prix à la consommation était le résultat de la cohérence de la politique monétaire et synergie pour contrôler l'inflation entre la Banque d'Indonésie et le gouvernement central et aussi le gouvernement régional dans l'équipe centrale et régionale de contrôle de l'inflation à travers le renforcement du mouvement national de contrôle de l'inflation alimentaire dans diverses régions. L'inflation sous-jacente en janvier 2024 a été enregistrée de 0,20%, légèrement supérieure à l'inflation du mois précédent de 0,14%. La réalisation de l'inflation sous-jacente a été principalement contribuée par les bijoux en or, les coûts de location des logements et les coûts de contrats immobiliers. Sur une base annuelle, l'inflation sous-jacente en janvier 2024 a été enregistrée à 1,68%, plus bas que l'inflation du mois précédent était de 1,80%. Erwin a déclaré que l'inflation dans le groupe alimentaire Volatia a diminué en janvier 2024, a enregistré une inflation de 0,01%, en baisse par rapport à l'inflation du mois précédent de 1,42%. Cette évolution était soutenue principalement par une augmentation à l'approvisionnement en Chili. La baisse de l'inflation volontaire des produits alimentaires a été encore freinée par l'inflation des tomates, des échalotes et du riz. Pendant ce temps, l'inflation dans le groupe des prix administrés a été enregistrée en janvier 2024. Il y a eu une déflation de 0,40%. Cela signifie une diminution par rapport à l'inflation du mois précédent de 0,39%. La déflation a été influencée par la diminution des tarifs de transport aérien après la fin des fêtes religieuses nationales de Noël et de Nouvel An et les ajustements du prix du fuel non subventionné. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voice of Indonesia.
Ku Satu arahku satukan tujuan.
Tetap melaju, yeah, yeah. Jangan berhenti dengar kata hatimu, yeah.
Suaraku dan menghentikan itu terdahulu. Teriak menghentikan badai berlalu.
Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la cascade de Tirta Rimba Bau-Bau dans la province de Sulawesi Sud-Est. L'air frais commence à se faire sentir lorsque vous vous rendez dans le quartier de Buton en passant par la colline de Wantiro, la ville de Bau-Bau. Surtout lorsque vous êtes dans une zone d'arbres ombragés, vous ressentirez plus la fraîcheur de l'air. À cet endroit, il existe la cascade la plus célèbre de la ville de Bau-Bau, à savoir la cascade de Tirta Rimba. Cette cascade, qui a été ouverte en 1978, est précisément située dans le sous-district de Kadolomoko, le district de Kokalukuna, la ville de Bau-Bau, dans la province de Sulawesi Sud-Est. L'accès à cette attraction touristique naturelle est très facile parce que les véhicules privés à 2 ou 4 euros peuvent entrer jusqu'au bord de la cascade. L'air frais devient encore plus prononcé à l'approche de cette attraction touristique. Même lorsque le débit d'eau est assez important, le bruit du rugissement de la cascade peut être clairement entendu lorsque vous êtes sur le bord de la route. La cascade de Tirta Rimba a une hauteur d'environ 10 mètres et le caractère unique de l'eau qui coule d'un gros rocher l'a fait ressembler à un champignon. Les morceaux de roche en forme de champignon représentent la teneur en calcaire de l'eau qui coule depuis assez longtemps. Juste sous la cascade se trouve une piscine qui s'est formée naturellement. D'habitude, cette piscine est utilisée par les touristes pour ressentir la fraîcheur de l'eau en nageant. Si vous êtes plus courageux, vous pourrez entendre la sensation de sauter dans la piscine naturelle du haut de la cascade. En plus de nager ou de jouer dans l'eau, vous pouvez également prendre des photos à télécharger sur les réseaux sociaux parce que cet endroit peut être considéré comme une destination touristique Instagrammable. Si vous êtes dans le sud-est de Sulawesi, notamment dans la ville de Bau-Bau, trouvez le temps de visiter la cascade de Tirta Rimba. Vous pouvez vous sentir calme et détendre votre corps et votre esprit. Bon, chers amis, c'était la rubrique Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le programme de Jalin Nusantara. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a collaboré avec la plateforme TikTok pour lancer Jalin Nusantara afin de soutenir le développement des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que l'économie créative basée sur le numérique en Indonésie. Cette collaboration a été marquée par la signature d'un accord conjoint entre l'Agence au développement des destinations et des infrastructures du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, M. Haryanto, et le responsable des politiques publiques et des relations gouvernementales TikTok Indonesia, M. Firi Wahid. La signature a eu lieu en présence du ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno à Puncak Waringin, Labuan Bajo, mardi 23 janvier 2024. Sandiaga espère que cette collaboration constituera une étape stratégique dans la création de 4,4 millions de nouveaux emplois dans le secteur du tourisme et de l'économie créative. Lorsque Labuan Bajo est en basse saison, les activités qui attirent de nombreux visiteurs doivent être organisées. En dehors de cela, la collaboration entre le ministère du Tourisme et de l'Économie créative avec la plateforme TikTok est une forme de suivi du protocole d'accord signé à Jakarta avec le lancement de TikTok Jalin Nusantara. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga, a déclaré que ce programme ouvrira une formation aux compétences numériques dans 19 points en Indonésie, notamment dans 10 centres d'économie créative, tels que Samosir, Pekanbaru, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, Balikpapan, Labuan Bajo et Jayapura. Le reste est concentré dans 9 destinations touristiques, à savoir le village touristique de Lumban Suhi Suhi Toruan, le village touristique Jangga Dolok, le village touristique Raya Seribu Bunga, le village touristique Said Batu Asri, le village touristique Kampung Warna-Warni Tiga Rihit, le village touristique de Lumban Bulbul, le village touristique Golo Loni Ekra Victory, et le village touristique Ulu Loga. Le ministre Sandiaga espère que ce programme pourra accélérer les efforts visant à atteindre l'objectif de 50% de micro, petites et moyennes entreprises entrant dans l'économie numérique à tous les niveaux. Firi Wahid, responsable des politiques publiques et des relations gouvernementales de TikTok Indonesia, a déclaré que le programme TikTok Jalin Nusantara est une forme d'engagement de son entreprise à continuer de soutenir les acteurs de micro, petites et moyennes entreprises en améliorant les compétences numériques complètes et conformes aux besoins locaux. Firi a déclaré que TikTok Jalin Nusantara se concentre sur l'amélioration et l'autonomisation des compétences numériques essentielles et la durabilité des entreprises grâce à des partenariats et au soutien du gouvernement et du monde des affaires. L'amélioration des compétences et l'autonomisation comprennent des connaissances de base en matière numérique, commerciale et financière, tandis que les compétences numériques essentielles incluent la création du contenu, le marketing numérique et les pratiques du commerce électronique. Selon lui, par ce programme, TikTok espère apporter un impact socio-économique positif et durable à plus de 18 000 habitants et 500 micro, petites et moyennes entreprises en Indonésie. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Are you ready for this?
Whoa, oh, oh, oh.
Cause I'm ready.
Oh, oh.
Let's roll, girl.
Eh, kamu, aku dan dia, kita
C'était toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine Musica. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Rindu Tapi Malu, chantée par Afifah. La chanson « Rindu Tapi Malu » a été créée par Faisal Asahan. Cette chanson raconte le désir de quelqu'un de son idole. Même si elle était remplie de nostalgie, elle était gênée de l'exprimer. Cette chanson est sortie sur les plateformes numériques le 9 décembre 2023 et a été popularisée par la chanteuse Happy Asmara. Bon, chers auditeurs, voici Afifah dont le titre est « Rindu Tapi Malu ». Bonne écoute!
Entah mengapa
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.